mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je me réjouis. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, un peu émue aussi parce que je ne parle plus français. Donc, je m'excuse déjà pour mon accent. Et je me réjouis aussi énormément de vous accueillir en septembre dans ma vallée. Quand la réforme arrivait d'Italie, oui, parce que d'habitude, quand on pense à la réforme, on pense au nord. Et mon accent est là pour dire qu'il y a aussi une réforme qui vient du sud, qui parle italien, comme on le verra. L'histoire du Val Bregaglia porte en elle de nombreux contrastes qui sont parvenus jusqu'à nous et qui sont encore visibles aujourd'hui dans le paysage, dans la culture et jusque dans la langue. Des contrastes géographiques, culturels, linguistiques. En voici quelques-uns à titre d'introduction. Dans sa partie haute, Sopra Porta, le climat et la végétation sont alpins, tandis que Castasegna, dans la partie basse, Sotto Porta, bénéficie d'un climat méridional et possède une châtaigneraie qui était autrefois l'une des plus vastes d'Europe. La frontière avec l'Italie, marquée aujourd'hui par le Lovero, la rivière qu'on appelle Lovero, qui s'appelle Lovero, près de Castasegna, a été plusieurs fois déplacée au cours de son histoire. Si aujourd'hui la vallée est orientée principalement vers le nord, vers l'Engadine, Coire, Zurich, cela n'a pas toujours été ainsi et son ouverture vers le sud a marqué profondément son histoire culturelle, politique et religieuse. Du sud est arrivé le christianisme au IVe siècle avec Gaudenzio, un évêque de Vercelli. Du sud est arrivé aussi la réforme au XVIe siècle. Sur le plan linguistique, vous entendrez parler le bregagliotto, l'italien, l'allemand. Le bregagliotto est le dialecte parlé dans la vallée qui combine des éléments du romanche avec des éléments des dialectes lombards. Si, comme vous pourrez le constater lors de votre voyage, le Val Bregaglia est aujourd'hui une vallée éloignée et périphérique, comme le disait M. Fornet avant, on oublie parfois que dans le passé, elle a représenté une importante voie de passage à travers les Alpes. Dès le IVe siècle, une route romaine traversait la vallée et les cols du Splügen, du Septimer et de la Maloja assuraient jusqu'à l'ouverture du Gothard le passage nord-sud et sud-nord. Cette double ouverture vers le sud et vers le nord, avec ses importants trafics commerciaux, a profondément marqué l'histoire de la vallée jusqu'à aujourd'hui. Elle lui a aussi valu de nombreux conflits, car les grandes puissances de l'époque, l'Espagne, l'Autriche, la France et Venise, se disputaient l'alliance de la République des Trois Ligues. On verra plus tard, c'est les grisons de l'époque, dans le but de s'assurer justement le passage à travers les Alpes. Si aujourd'hui l'italien est une langue fortement minoritaire, un peu exotique, comme mon accent, dans les grisons comme en Suisse, on oublie parfois qu'au XVIe siècle, l'italien était la langue connue universellement, comme l'a été le français sous le règne du roi Soleil et comme l'est aujourd'hui l'anglais dans le monde. Cela explique l'existence au XVIe siècle d'importantes imprimeries qui imprimaient en italien, non seulement à Poschiavo, où il y avait une imprimerie dont on reparlera de Dolfine Landolfi, mais également à Genève, Pinerolio, et à Bâle, Perna. Ces nombreux contrastes qui caractérisent notre vallée traversent l'histoire et marquent profondément dès le début le mouvement qui a amené la réforme dans le Val Bregaglia. Au XVIe siècle, en effet, la vallée se trouve au milieu de deux mondes religieux, le monde de la réforme représenté par les cantons suisses et le monde de la contre-réforme représenté par le duché de Milan. Entre ces deux mondes se développe un protestantisme qui a des caractéristiques spécifiques, propres, et qui a pour trait spécifique celui d'ouvrir un espace de débat, de communication, de controverse et parfois de conflit entre ces deux mondes, entre le nord et le sud, entre l'allemand et l'italien, entre le protestantisme et le catholicisme. J'aimerais partir dans ce petit voyage qui vous amène dans ma vallée en soulignant que la Val Bregaglia est une vallée plurilingue. Pourquoi partir de la langue pour parler de la réforme ? Parce que la réforme dans le Val Bregaglia n'amène pas seulement une révolution religieuse, mais introduit également une révolution linguistique. Parce que la réforme dans le Val Bregaglia parle italien aujourd'hui comme au XVIe siècle. Le fait de partir de la langue nous permet de saisir donc l'une des caractéristiques spécifiques du mouvement qui a amené la réforme en Bregaglia. Ce double héritage, l'héritage linguistique italien et l'héritage spirituel réformé, constitue l'une des caractéristiques principales de cette vallée et forme une unité indissociable. Le titre de mon exposé aurait pu tout aussi bien être « Quand la réforme parle italien », « Quand la réforme parlait italien », car il existe véritablement un protestantisme de langue italienne en Suisse, un protestantisme qui est né en parlant italien et qui parle encore aujourd'hui italien. Le plurilinguisme dans le Val Bregaglia n'est pas un phénomène récent. Déjà avant la réforme, à côté du dialecte, le bregagliotto, qui était la langue maternelle des habitants de la vallée, les habitants du Val Bregaglia parlaient le suisse allemand, car la vallée appartenait au diocèse de Coire. Ils parlaient également un dialecte lombard, car la main-d'œuvre employée dans les travaux agricoles provenait des régions de Bergamo, de Brescia et de la Valtelline. Avec ces ouvriers, les gens, c'est marrant, transformaient leur dialecte et utilisaient une forme de dialecte qui avait une parenté étroite avec les dialectes lombards. Et aujourd'hui encore, les gens de la vallée ne parlent pas leur dialecte avec les Italiens ni avec les Tessinois, mais s'adaptent aux interlocuteurs en parlant une forme de dialecte lombard. Les langues parlées témoignent donc des liens étroits qui existaient à l'époque avec le nord des Alpes, mais aussi avec l'Italie. En ce qui concerne la langue écrite, bien qu'il existe des textes écrits en romanche, la plupart des documents et des actes officiels étaient écrits en latin et en allemand avant les réformes. Pendant plusieurs siècles, le Val Bregaglia a entretenu des contacts étroits avec le nord des Alpes. Déjà durant le haut Moyen Âge, le Val Bregaglia, comme je disais avant, appartenait au diocèse de Coire. Et pendant tout le Moyen Âge, les contacts et les relations avec l'Italie n'étaient que très réduits. Or, cette situation linguistique change complètement avec l'avènement de la réforme. La réforme arrive de l'Italie, vous l'avez appris maintenant, avec des ecclésiastiques catholiques convertis aux idées de la réforme qui doivent fuir les tribunaux de l'Inquisition. En quelques décennies seulement, dans la première moitié du XVIe siècle, l'italien gagne du terrain et s'affirme comme langue de l'Église. Les statuts criminels d'abord en 1546 et les statuts civils ensuite en 1597 ne seront plus écrits en latin ou en allemand, mais en italien. Après la diffusion de la réforme, les gens continuent à parler leur dialecte, bien évidemment, tout comme aussi les dialectes suisse-alémaniques, mais la langue écrite est désormais l'italien. Il s'agit d'un italien, ça c'est aussi une spécificité liée à la situation du Val Bregaglia, il s'agit d'un italien littéraire dont le modèle de référence est l'italien de la traduction de la Bible effectuée par Giovanni di Diodati, aussi un originaire de Lucca. C'est cette version de la Bible que l'on lit tous les dimanches pendant le culte. Les ecclésiastiques et les humanistes qui quittent l'Italie dans les années 1530-1540, sous la pression de l'Inquisition, viennent de toutes les régions d'Italie et parlent des dialectes très différents entre eux. À cette époque, le Val Bregaglia représente donc une espèce de laboratoire de la communication unique et très intéressant où se côtoient de nombreux dialectes. Dans cette situation particulière, comme je le disais avant, l'italien littéraire toscan, tel que Pietro Bembo le définit dans son ouvrage Prose della Volgar Lingua au début des années 1500, devient un instrument utile pour se comprendre. L'italien toscan est la langue de la culture dans laquelle il existe de nombreuses publications. C'est la langue aussi dans laquelle il existe déjà une Bible, la Bible de Brucioli, publiée en 1532 à Venise. C'est cette langue qui est prise comme modèle et utilisée par les prédicateurs aussi pour prêcher le dimanche, pour transmettre les idées de la réforme. Donc, une version orale de l'italien écrit qui est pris comme modèle, puisque chacun parle son dialecte autrement. Les inscriptions de versets bibliques ou de paroles de sagesse que l'on peut lire sur les bâtiments publics, tout comme sur les maisons privées, les granges, les fermes, témoignent aujourd'hui encore de ce lien étroit entre la diffusion de la réforme et l'introduction de l'italien. Il s'agit de documents historiques importants qui attestent le plurilinguisme et la richesse linguistique de notre vallée et qui montrent comment l'affirmation de la réforme a porté l'italien à côté du latin et de l'allemand. Nous allons voir quelques exemples. Une première inscription en latin, Soli Deo honor et gloria. Une deuxième inscription en italien, celle-là, c'est Il Signore non è defica ed defica la casa, in vano s'affaticano intorno ad essa quelli che le deficano. Il fine del ragionamento è questo, teme il Dio ed osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo. Puis une troisième inscription très intéressante où à côté du latin en haut on voit l'allemand. Hoch Gott durch deine Barmherzigkeit bewahr dieses Haus für Schmerz und Leid. Et ensuite l'italien apparaît tout en bas. Per volontà dei Dio Gian Stanta de Bolzan. Et puis j'ai mis à la fin encore une inscription en bregagliotto pour juste vous donner envie un peu d'entendre ce dialecte. Cun fervur el ciel m'affida la ticciura pardon, e protezione. Je dois passer maintenant, excusez-moi, juste, vous pouvez avancer, voilà. Je vous propose maintenant, avant d'entrer dans les détails de l'histoire du Val Bregaglia, de faire une petite promenade historique rapide à travers quelques dates importantes de l'histoire des Grisons qui nous permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel la réforme advient dans notre vallée. D'abord, 1367, la fondation de la Ligue de la Maison Dieu, une des trois ligues qui fera partie après des trois ligues, de l'État des trois ligues. Et c'est la ligue, la première que vous voyez en haut, la Maison Dieu, c'est la ligue à laquelle appartient aussi le territoire du Val Bregaglia. Et puis après, vous voyez la date de fondation des deux autres ligues grisonnes, la ligue grise et la ligue des dix juridictions. Pardon. En 1450 commence le procès d'unification de réunion des trois ligues par des pactes d'alliance qui amèneront en 1524 la constitution du libre état des trois ligues. Il faut aussi mentionner la date de 1512 parce que elle est très importante parce que les territoires de la Valtelline, de Chiavenna et de Bormio deviennent des pays assujettis aux trois ligues. C'est des territoires qui aujourd'hui sont en Italie, évidemment. Ensuite, 1524 et 1526, c'est les premiers et deuxièmes articles de Ilans qui sont aussi très, très importants pour l'histoire de la réforme, car ils sanctionnent l'extension des droits des communes. Les deuxièmes articles de Ilans, notamment, limitent les droits de l'évêque et attribuent le droit de choix du curé aux communes. Et aussi le droit de choisir à quelle confession adhérer, à quelle confession appartenir. Ces articles, donc, en fait, créent dans cette région de l'État des Trois Ligues à l'époque, un climat de tolérance religieuse, si on peut parler de tolérance à cette époque. 1525, c'est juste pour donner une idée de ce qui se passe au nord avec Johannes Commander qui célèbre pour la première fois la scène selon le rite protestant dans l'église Saint-Martin à Coire. Voilà. 1527, 10 ans seulement après 1517, la réforme est établie dans toute la ville de Coire. C'est aussi pour vous montrer un peu comment ça va vite, en fait. 1529, Bartolomeo Maturo, qui sera ensuite pasteur à Vicosoprano, est appelé à s'expliquer devant la diète rétique à Ilanz, qui lui interdit de prêcher en Valteline. Donc, c'est la première... C'est les premières informations que l'on a au sujet de Bartolomeo Maturo et qui nous témoignent que déjà fin des années 20, début des années 30, la réforme commence dans la vallée, dans le Val Bregaglia. Vous pouvez continuer comme ça. Il y a juste une image où vous pouvez voir un petit peu les trois ligues. La Ligue de la Maison Dieu en vert et les territoires sujets à l'état des Trois Ligues en gris. Vous voyez là bien, la frontière se déplace dans l'histoire et c'est tout ce qui est en gris appartient à l'état des Trois Ligues à l'époque. Oui, on sait, merci. Là, vous voyez de nouveau au centre la Ligue de la Maison Dieu, à laquelle appartient aussi le Val Bregaglia. C'est aussi pour que vous ayez devant vous un peu une carte des lieux. À l'époque de la Réforme, donc, le Val Bregaglia appartenait à l'État autonome des Trois Ligues et était divisé en deux parties, sopra porta et sotto porta. J'ai déjà fait référence avant à cette division qui était donnée et qui est donnée encore aujourd'hui par une barrière naturelle du site de Castelmour. Sur le plan ecclésiastique, toute la vallée constituait une seule paroisse qui dépendait de l'archiprêtre de Castelmour, tandis que les paroisses des territoires sujets, des territoires en gris, et de Poschiavo dépendait de l'évêque de Côme, le Val Bregaglia dépendait de l'évêque de Coire. Il y avait à l'époque 9 églises, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, vous allez voir, il y en a une dizaine aujourd'hui aussi, et 9 curés. Ce nombre élevé d'églises et de curés était probablement dû aux importants trafics commerciaux qui traversaient la vallée à cette époque. L'adhésion à la réforme est un processus qui s'étend sur 2 décennies environ et qui commence vers, comme je le disais avant, vers 1530, suite à la prédication d'un réfugié religionis causa, Bartolomeo Maturo de Cremona. Différemment que dans le nord des Alpes, la réforme en Italie n'a pas eu un centre géographique symbolique comparable à Wittenberg pour le protestantisme luthérien ou à Zurich, Strasbourg ou Genève pour le courant réformé. L'histoire de la diffusion de la réforme au sud des Alpes est un phénomène complexe qui ne se présente pas de manière uniforme sur le plan doctrinal, mais qui comporte des facettes nombreuses et multiformes. Parmi les prédicateurs passés à la réforme, l'on trouve des protestants comme Pier Paolo Vergerio, Per Martire Vermigli, Girolamo Zanchi. Pier Martire Vermigli, vous avez peut-être entendu son nom, a été professeur d'Ancien Testament et de Nouveau Testament à Zurich, à Strasbourg et à Oxford. Mais il n'y a pas seulement, parmi ces prédicateurs, il n'y a pas seulement des protestants, il y a aussi des spirituels, des anabaptistes et des hérétiques. des antitrinitaires, des rationalistes. Le mouvement réformateur qui prend pied dans les vallées méridionales des Trois Ligues et dans les bailliages grisants de Chiavenna, de Valtellin et de Bormio pendant la première moitié du XVIe siècle n'est pas simplement le prolongement de la réforme qui a lieu au nord des Alpes, ni de celle qui se développe en Italie, mais tout en ayant des influences indéniables de ces deux côtés, il possède également des caractéristiques qui lui sont propres. J'aimerais souligner ici que grâce à l'imprimerie, c'est pour ça que j'ai nommé avant ces imprimeries, grâce à l'imprimerie, mais aussi au contact avec des étudiants étrangers qui séjournent dans les universités italiennes, des commerçants, des soldats, des enseignants, les idées de la réforme se répandent de manière très rapide au sud des Alpes, presque en temps réel, comme on l'a vu avant. En 1519, l'éditeur balois Johannes Frobenius écrit par exemple à Luther que Francesco Calvo, un libraire de Pavia, était arrivé à Bâle pour acheter un grand nombre de petits livres en latin de Luther, donc, qu'il voulait diffuser en Italie. Les régions du nord de l'Italie, qui entretenaient des rapports commerciaux importants et étroits avec le monde alémanique et avec la Suisse, représentent un lieu de passage privilégié pour la diffusion de ces œuvres des réformateurs écrites dans un premier temps en latin. Très tôt, cependant, des traductions en italien furent imprimées et commencèrent à circuler en Italie à côté de ces œuvres en latin. Ces traductions étaient pour la plupart publiées anonymes ou sous un pseudonyme et les titres originaux étaient bien souvent modifiés. L'œuvre de Luther, De Libertate Christiana, fut par exemple publiée en italien sous le titre de Opera Divina della Christiana Vita, sans que le texte ne mentionne ni le nom de l'auteur, ni la date, ni le lieu de publication. Parce qu'évidemment, on risquait d'être soumis à un procès par le tribunal de l'Inquisition. Je regarde un peu le temps. 10 minutes. Oui, je voulais arriver maintenant à quelques lieux dans la vallée et quelques noms de personnages. J'aimerais commencer par Soglio. Je sais que vous allez partir de Chiavenna, mais je partirai de Soglio, car Soglio, c'est la dernière commune qui adhère à la réforme. À Soglio, la réforme a été le résultat d'un mouvement populaire. La famille des Salis préfère ne pas s'immiscer dans celles qu'elle considère des questions de conscience. C'est donc les jeunes de Soglio qui organisent une réunion le jour de Noël de 1552, lors de laquelle la population de Soglio décide d'adhérer à la réforme. Le 3 janvier 1553, Vergerio écrivait dans une lettre adressée à Heinrich Bullinger à Zurich: «In Bregaglia vi è un luogo denominato Soglio, dove dimorano numerosi influenti papisti, ma Dio è stato più potente di loro, poiché 8 giorni fa la messa è stata abolita per merito di gente di poco conto, se valutata secondo le misure di questo mondo». Le premier pasteur élu à Soglio fut Lattanzio Michele, originaire de Bergamo. Après lui fut pasteur à Soglio le toscan Michelangelo Florio, qui appartenait à l'ordre des franciscains. Et vous avez peut-être entendu parler de Michelangelo Florio, surtout aussi à cause de son fils John Florio, qui est devenu connu ces dernières années, surtout à cause d'une hypothèse qui le mettrait en relation avec Shakespeare. On laisse de côté ces hypothèses pour le moment. Ici, ce n'est pas mais vous avez peut-être entendu parler de John Florio, donc Michelangelo Florio, c'était son père. Donc Soglio, je vous disais avant, est la dernière commune qui a adhéré à la réforme. Avec Soglio, la paroisse de Castasegna, qui dépendait directement de la paroisse de San Lorenzo à Soglio, passe également à la réforme. Et à partir de cette date, toute la vallée est réformée. Et le culte réformé sera célébré sans interruption jusqu'à aujourd'hui. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui de très spécial et qui différencie le Valbregaglia du Tessin, par exemple. Et comme le souligne l'historien italien Giorgio Spini, cela constitue une exception qui fait de cette vallée un cas unique au monde. Le Valbregaglia, la Valbregaglia, je ne sais plus quelle langue je parle, je cite, la Valbregaglia e la Valposchiavo sono l'unico cantuccio di mondo in cui il culto in italiano sia sopravvissuto ininterrottamente dalla riforma del XVI secolo ad oggi. Par contre, au Tessin, par exemple, la réforme commence aussi dans la même période, mais après, les protestants tessinois devront partir parce que la situation politique est complètement différente. Et donc, il y a un trou dans l'histoire. Il y a deux siècles, enfin, jusqu'aux aux travaux du Gothard, où la main-d'œuvre revient du Nord. Et donc, il y a un retour du protestantisme aussi du Nord, cette fois au Tessin. Donc, le Valbregaglia a cette particularité. Dans une période très brève de 20-25 ans, donc, les idées de la réforme amenées par les réfugiés italiens ont profondément transformé la vallée qui est devenue entièrement réformée. Mais d'où cela avait commencé? De Chiavenna, là où vous allez aussi commencer. Chiavenna représente depuis l'Antiquité un nœud fondamental sur les voies de communication qui portent du sud au nord des Alpes. Son importance s'accroît encore avec son annexion aux Trois Ligues en 1512. La ville de Chiavenna et son comté appartenaient avec la Valtelline, comme on l'a vu, et le territoire de Bormio au Grison. Les territoires sujets aux Trois Ligues comptaient à l'époque environ 50 000 habitants, dont 4 000 habitaient à Chiavenna. Pour avoir une idée de l'importance de cette ville, il suffit de considérer que Coire, la plus importante ville des Grisons, ne comptait à la même époque que 2000 habitants. Chiavenna était située au croisement des principales voies de communication entre l'Italie et le nord des Alpes. Par sa position géographique et politique, donc, cette ville a représenté aussi un observatoire important pour les cantons réformés suisses, un observatoire orienté vers le sud de l'Europe. À ce propos, le 3 janvier 1550, Pier Paolo Vergerio écrivait à Calvin « Les vallate, pas très modeste, les vallate retiche meridionali devono diventare per l'Italia ciò che Ginevra è per la Francia. Ciò che Ginevra è per la Francia. E cioè una centrale di radiazione della predicazione evangelica e un punto di riferimento per l'intero movimento di riforma nel territorio confinante. Ça, c'était le projet de Pier Paolo Vergerio. Les réfugiés italiens qui arrivent à Chiavenna ont donné vie à la plus importante et nombreuse paroisse réformée dans les territoires sujets aux Trois Ligues. Chiavenna représentait l'une des principales villes où les prédicateurs italiens poursuivis comme hérétiques par l'Inquisition trouvèrent refuge. Je peux faire quelques noms. Francesco Negri, qui est en fait le premier, c'est un humaniste et poète de Bassano, poursuivi par l'Inquisition pour avoir écrit une comédie, Commedia del libero arbitrio. C'est lui en fait qui, sans avoir un rôle officiel, un mandat officiel et sans avoir aucune reconnaissance de la part de l'Église grisonne, peut être en réalité considéré comme le premier réformateur de Chiavenna. Le premier prédicateur officiel, par contre, reconnu aussi par l'Église grisonne, a été Agostino Mainardi, originaire de Saluzzo au Piémont, qui échappa lui aussi à un procès pour hérésie en 1541. Je survole deux, trois choses. Juste encore une chose sur Chiavenna, puisque vous allez partir de là. 30 ans après le début de la prédication réformée à Chiavenna en 1558, un tiers de la population de la ville est réformée. Chiavenna dispose de deux postes pastoraux et de deux églises, Santa Maria et San Pietro. Et il existe également des églises réformées à Piuro, Mese, Prata et Villa di Chiavenna. Les grandes familles du Val Bregaglia et de Longadine, telles que les Salis et les Travers, possédaient des palais que vous allez aussi voir et des terrains dans le comté de Chiavenna et entretenaient d'importantes relations commerciales avec les riches marchands de Piuro. Ces familles grisonnes renforcèrent la diffusion du protestantisme à Chiavenna. J'ai oublié quelques images. On peut passer. Voilà. Là, vous voyez quelques noms de cette quarantaine de prédicateurs italiens qui ont passé par le Val Bregaglia. Il y a ici seulement sont mentionnés seulement les prédicateurs dont on connaît l'origine. Donc peut-être qu'il y en avait encore plus, mais entre 1550 et 1620, une quarantaine de prédicateurs réformés italiens ont prêché dans la vallée. Ce sont donc tous des réfugiés. Pour ces réfugiés, les territoires sujets aux trois ligues représentaient une destination facilement atteignable, où on parle italien, et où règne un climat de tolérance religieuse, comme je disais avant. On va juste passer à Pier Paolo Vergerio. J'ai choisi un exemple, parce que c'est le nom que vous allez entendre aussi lors de votre voyage. Parmi les réfugiés qui arrivent dans le Val Bregaglia, il y a Pier Paolo Vergerio, qui est sans doute celui qui a le plus influencé la réforme, non seulement à Vicosoprano, mais dans toute la vallée et aussi en Valtelline. Il a plus de 50 ans quand il arrive dans la vallée et il a une importante carrière ecclésiastique derrière lui. Avant d'être nommé évêque de Capodistria, Pier Paolo Vergerio avait été nonce apostolique à Vienne et légat pontifical en Allemagne. En décembre 1545, il est accusé d'hérésie et c'est le premier cas d'un évêque poursuivi par le tribunal de l'Inquisition. Et donc, il quitte lui aussi l'Italie. Et avant de s'établir à Vicosoprano, en 1550, Vergerio séjourna brièvement à Chiavenna, Quar, Poschiavo et Bâle. L'activité de prédication de Pier Paolo Vergerio ne se limite pas au Val Bregaglia, comme je le disais avant, mais s'étend à Poschiavo, en Engadine, en Valtelline. Il a non seulement été actif comme prédicateur, mais il a aussi beaucoup écrit. Il a écrit des catéchismes et il a écrit de nombreuses lettres. Vraiment, il existe une correspondance très riche, très nourrie avec les théologiens zurichois, notamment avec Heinrich Bullinger et Rudolf Gwalter. Je voulais terminer sur ça pour vous montrer qu'en fait, la réforme arrive chez nous avec ces réfugiés, mais dans un deuxième temps, elle s'oriente aussi à travers cette correspondance très nourrie vers le nord, entretient des contacts avec les réformateurs suisses, notamment parce que, comme je le disais avant, dans cette région, il n'y a pas que des protestants orthodoxes, mais évidemment, puisqu'il y a énormément de gens qui arrivent, chacun amène sa doctrine, et donc il y a des débats, des disputes, et à ce niveau-là, interviennent l'église de Quar, des Grisons d'abord, mais aussi les réformateurs du Nord. Pier Paolo Vergerio devra quitter le Val Bregaglia parce que son zèle l'amène à assumer des positions un petit peu autoritaires. Il agit un peu comme un évêque. Il se nomme d'ailleurs lui-même. Il s'attribue le rôle de visiteur et intervient comme ça, à ce titre, dans la vie, dans les questions des églises de langue italienne dans les territoires sujets, et cela ne lui fait pas que des amis, ni parmi les autres pasteurs, ni à Coire et à Zurich, où on commence à le regarder un petit peu avec... Et puis, comme ça, lui, il comprend que c'est le moment de partir. Et dans l'automne de 1553, Vergerio quitte la vallée et part pour l'Allemagne, où il sera conseiller en matière religieuse du duc Christophe de Wurtemberg. Il mourut le 4 octobre 1565. Voilà pour ce petit voyage dans la réforme, dans cette réforme qui venait d'Italie.